Et il y a bien des choses à vocation universelle. Quand un croyant tombe malade, il a besoin d'aller dans un hôpital public où il sera soigné, si possible, gratuitement. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Idem pour l'athée. Alors, à travers ça, ce qui s'affirme, c'est une autre idée très, très importante dans l'état de droit. C'est la distinction entre privé et public. Il y a ce qui est privé, c'est-à-dire ce qui me concerne moi, ou mes proches, ou éventuellement une communauté particulière. La religion doit redevenir une affaire privée. L'athéisme doit être une affaire privée. Je précise d'ailleurs que l'Union soviétique stalinienne persécutant les croyants et fermant les églises au nom d'un athéisme officiel était aussi anti-laïque que la Pologne concordataire ou l'Allemagne concordataire qui finance avec de l'argent public religions. Donc, ce principe selon lequel il faut que l'universel soit nourri par l'universel, il s'applique à toutes les options spirituelles. Il veut dire très simplement que l'athéisme ne doit pas devenir une doctrine officielle, que la religion ne doit pas devenir une doctrine officielle. C'est-à-dire que tout simplement, selon la distinction publique-privée, la religion devient une affaire privée qui n'engage que les croyants. Alors attention, ne glissons pas, ne confondons pas public et collectif. Parce que dire c'est public, dire que c'est, pardon, une affaire privée, ça ne veut pas dire seulement que c'est une affaire individuelle. Ça peut être une affaire collective, à ceci près que le collectif des croyants n'est pas la même chose que le collectif de toute la communauté. Ici, par exemple, si nous définissons la communauté du Laos, du peuple que nous formons là tous ensemble, qu'il y a parmi vous des croyants, des athées et des agnostiques, eh bien, il y a, disons, virtuellement des sous-communautés, des sous-collectifs, mais ces sous-collectifs ne sont pas, évidemment, assimilables au collectif des collectifs que constitue la République. Et d'ailleurs, la République n'est pas une mosaïque. Elle n'est pas une juxtaposition de communautés particulières. Parce que la République, la res publica, n'advient que s'il y a des lois communes à tous. Et ces lois communes à tous, c'est justement la grandeur de la République que de les libérer de tout intérêt particulier. Alors, je vous propose une définition de la laïcité maintenant, évidemment, je regrette que Michel Wieworkan ne soit pas là, parce que j'aurais aimé parler avec lui de cette définition. Vous avez noté que Michel Wieworkan disait la laïcité, c'est d'abord la séparation de l'État et de l'Église. Alors moi, je serais d'accord pour dire, mais sauf que, pour dire la même chose, sauf que pour moi, la séparation de l'État et de l'Église, c'est pas ça qui définit le contenu intrinsèque de la laïcité. La séparation de l'État et de l'Église, c'est une garantie qui rend possible le fait que l'État promeut la liberté, l'égalité et l'universalité. Les trois valeurs ou les trois principes qui vont définir la laïcité, c'est d'une part la liberté de conscience, premier principe. Alors là, je rejoins Michel Wieworkan qui l'a dit, qui a pour cas particulier la liberté de culte. Article 1 de la loi de 1905, regroupé sous le titre principe, la République assure la liberté de conscience, point, elle garantit le libre exercice des cultes. Mais attention, là où les prétendus laïcs ouverts ou positifs, etc., lisent mal le texte ou font semblant de mal lire, c'est quand elle donne au mot garantie le libre exercice des cultes le sens de assure les conditions matérielles du culte. Parce que le mot important, vous pensez bien que quand ils ont rédigé ça, Aristide Briand, Jaurès, etc., chaque virgule était discutée à la Chambre des députés. Le mot important, c'est libre. Elle garantit, la République garantit le libre exercice des cultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour qu'un culte soit libre, ça veut dire qu'il ne doit pas être entravé. Pour qu'il ne soit pas entravé, ça veut dire qu'aucune manifestation intempestive perturbant, par exemple, une messe, n'est acceptable. Donc, de ce que la religion devient une affaire privée qui n'engage que les croyants, il ne résulte nullement que un un incroyant fanatique pourrait pénétrer dans une église et se mettre à hurler ou à chanter à tue-tête au moment où il y a une messe. Parce qu'alors là, oui, il ferait une entrave au libre exercice du culte. C'est donc juridiquement le mot garantit le libre, le libre exercice du culte. Cela veut dire très précisément que la République mettra le cas échéant la force publique au service du libre exercice des cultes pour expulser un perturbateur du culte. Donc la garantie n'est que juridique, elle n'est nullement financière. Ce qui le montre, c'est pourquoi j'étais en total désaccord avec l'interprétation de Michel Vivorca, ce qui le montre c'est l'article 2. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est clair. Ne reconnaît aucun culte. Ça veut dire que les cultes perdent leur régime privilégié et préférentiel de culte reconnu qui datait du concordat de napoléonien 1801-1807. Donc on met un terme au fait de donner à la religion un caractère de droit public. Pourquoi ? Parce que c'était discriminatoire par rapport à l'athéisme ou à l'agnosticisme. Parce qu'on disait, oh mais l'athéisme et l'agnosticisme sont tout à fait libres. Oui, mais ils doivent rester dans la sphère privée. Alors que les religions ont un statut de droit public reconnu. Donc, lorsque le législateur abolit le régime des cultes reconnus, c'est pour instaurer l'égalité de traitement de toutes les convictions spirituelles. Ne salarie aucun culte, ça veut dire que les prêtres n'ont plus à être salariés de l'État. Ils ne sont plus des fonctionnaires, sauf en Alsace-Moselle. Je vais d'ailleurs y revenir. Troisièmement, ne subventionne aucun culte. Ça veut dire qu'à compter de la date des faits de la loi de 1905, c'est-à-dire 1er janvier 1906, le culte sera exclusivement à la charge des fidèles. Et le lieu de culte également. Alors, il se trouve que 34 000 églises et cathédrales étaient propriétés de l'État depuis le 2 décembre 1789 et que beaucoup avaient statut de monument historique. On entre à Notre-Dame de Paris pour en contempler les statues ou les vitraux, comme dans un musée. Ce double statut a fait que, après de longues discussions où les législateurs se sont demandé est-ce qu'on va demander un loyer aux associations cultuelles, où est-ce qu'on va laisser la jouissance gratuite de ces édifices publics du culte ? Là, le fléau a penché du côté de la jouissance gratuite, argument renforcé par le fait que beaucoup d'églises et cathédrales étant monuments historiques classés, devaient être en libre accès à toute personne, même lorsqu'elle ne vient pas pour le culte, par exemple, lorsqu'elle vient contempler les vitraux de Notre-Dame de Paris. La finalité esthétique et artistique était prise en charge. Mais ce n'est pas parce qu'on a reconduit ce statut qu'on a privilégié. À compter du 1er janvier 1906, il est clair que c'est à la charge de tous les croyants de financer leur lieu de culte, même si effectivement, de facto, les catholiques bénéficient d'un patrimoine. Mais s'ils veulent construire une autre église parce que celle qu'ils ont ne leur correspond pas, ils devront la payer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les anti-laïcs se servent de cela pour dire il faut financer sur fonds publics des constructions de mosquées parce que effectivement c'est le rôle de la République d'assurer les besoins religieux des croyants. Je m'inscris évidemment en faux totalement contre cela. Le rôle de la République n'est pas d'assurer les besoins religieux des croyants. Le rôle de la République est d'assurer à toute personne, quelle que soit sa position spirituelle, les conditions d'une vie digne, décente, ce que permet la santé gratuite. La santé, c'est le bien du corps. Ce que permet l'instruction gratuite. L'instruction, c'est le bien de l'âme ou de la conscience, comme vous voudrez. Ce que permet l'ensemble des services publics. Ce que permet le logement social. Ce que permet l'accès bon marché à l'énergie, à l'eau, etc. Toutes ces choses-là qui sont d'intérêt universel sont en charge pour la République et la République doit veiller à les donner effectivement le mieux possible à tous les citoyens qui soient croyants, athées ou agnostiques. Et c'est en jouant ce rôle social, et là je rejoindrai mais par un autre chemin ce que disait M. Vivorca, c'est en jouant son rôle social que la République donne le mieux à tous les citoyens qui la composent les moyens d'assurer par eux-mêmes leurs données spirituelles. D'ailleurs, aujourd'hui, les statistiques les plus récentes le montrent. J'en parlais avec mon ami Alain Sexig tout à l'heure. Il y a 2300 lieux de prière et mosquées en France. Et Dalil Boubaker, recteur de la mosquée de Paris, disait que si on crée deux services de prière et non pas un seul, comme on faisait naguère dans les églises catholiques, eh bien, il n'y a plus de problème de lieu de culte en France. Il faut arrêter avec cette vision qui est complètement dépassée. Et là, je parle très concrètement. Je regrette de ne pas avoir eu le temps d'en parler aussi avec M. Vivorca. L'islam des caves et des parkings, c'était vrai il y a 14 ans, c'est complètement faux aujourd'hui. Et d'ailleurs, la République n'a pas spécialement mis la main à la poche. Ce sont pour la plupart des cas les citoyens de confession musulmane eux-mêmes qui d'ailleurs ne demandaient pas à la République de financer leurs mosquées qui les ont financées. Et je disais tout à l'heure qu'il faut arrêter avec cette histoire de mécénat qui consiste à dire « il faut qu'on paye les mosquées, comme ça on contrôlera ce qui s'y dira ». Mais quel croyant va accepter de se faire acheter son conformisme ? La République ne doit pas fonctionner comme dans l'Ancien Régime avec le mécénat. Vous savez, les mécènes disaient « tiens, tu vas me tirer le portrait, mais fais-moi plutôt joli, hein, joli garçon ». Bon, donc en échange de l'argent, on contrôlait les œuvres d'art. Et quand le pape n'était pas content des nus de Michel-Ange, il envoyait des braguettone pour peindre des linges sur les parties cachées ce sein que je ne saurais voir par le pareil objet, la vue est offensée. Vous connaissez tous le Tartuffe. Bon, effectivement, ceux qui nous disent il faut que la République paie des mosquées sur ses fonds publics se situent dans une logique d'ancien régime du mécénat. Parce qu'ils ont l'air de... Alors on va leur dire, mais pourquoi vous voulez payer ça ? Parce que comme ça, il n'y aura pas des islamistes, d'affreux jojo islamistes envoyés par l'Arabie Saoudite, des wahhabites ou des salafistes qui vont causer dans les mosquées. Ah, j'ai dit, bon, donc vous allez imposer que dans les mosquées, ce soit des gens qui causent selon ce que vous allez leur dire qu'il faut dire. Donc vous êtes des mécènes, vous achetez le conformisme des religieux. Ah ben oui, alors comment tu résous le problème ? Mais moi je résous le problème autrement. On est dans une république laïque. Il y a des lois qui punissent les violences. Toute excitation à la haine, à la violence, abattre les femmes dites adultères, etc., est un délit, selon la théorie du performatif. Quand dire, c'est faire. Bon, c'est un délit. Et c'est un délit, ça se punit par la loi. Donc la république n'a pas besoin de payer pour contrôler. Elle énonce des règles du vivre ensemble qui, par elles-mêmes et par anticipation, constituent une protection, par exemple, en l'occurrence, des femmes. Parce que les femmes... Moi, j'ai discuté une fois avec une femme très laïque qui me disait « Mais Henri, qu'est-ce qui va... » venant d'Algérie, elle me dit « Mais qu'est-ce qui va m'arriver si jamais un imam appelle à me battre ?» Eh bien, je lui dis « Mais ne t'inquiète pas, il ne peut pas appeler à te battre. Toute incitation à la violence est un délit. Donc il va tout de suite devoir répondre devant la justice française et républicaine de cette incitation. Ce n'est pas en achetant les gens avec, en leur donnant gratuitement des mosquées qui vont coûter très cher à la puissance publique qu'on protège. C'est par la loi républicaine. Et ça, c'est une conception autrement républicaine que celle du mécénat. Vous me l'accorderez. Alors maintenant, un tout petit mot d'Alsace-Moselle. Et il est complètement faux de prétendre que l'Alsace-Moselle soit attachée au Concordat. En réalité, et j'en ai parlé longtemps avec des Alsaciens-Mosellans, de quoi est composé le droit local d'Alsacien-Mosellan ? De deux composantes, dont la généalogie est absolument distincte. Premièrement, le Concordat napoléonien de 1801-1807, qui a régné sur toute la France jusqu'en 1905. Mais comme en 1905 l'Alsace-Moselle était sous tutelle allemande, la loi de séparation n'a pas dénoncé le Concordat. Donc le Concordat est resté en vigueur. Mais par ailleurs, Bismarck, craignant la montée du communisme en Allemagne, fait une politique sociale très avancée. À la fin du XIXe siècle, la politique qui est restée sous le nom de welfare state, c'est-à-dire l'état social du bien-être, welfare state en anglais, l'état du bien-être. Et donc, il y a des droits sociaux en Alsace-Moselle qui sont plus avancés que le droit des autres départements français. Où est l'erreur? À quoi les Alsaciens mosellans sont-ils attachés? À la préservation de ces droits sociaux qui, dans leur généalogie, n'ont aucun rapport avec le concordat. Parce que, d'un côté, les droits sociaux auxquels les Alsaciens mosellans sont attachés sont de généalogie allemande. Et quand on a récupéré l'Alsace-Moselle, les législateurs n'ont pas cru devoir homogénéiser. Ils ont peut-être eu tort, ils ont peut-être eu raison, je ne vais pas entrer dans ce débat. Donc, les droits sociaux issus de la politique bismarckienne sont restés en vigueur. Et le concordat d'Alsace-Moselle, une seule tentative, celle d'Edouard Herriot, qui a battu en retraite très vite, sont restés en vigueur. Et aujourd'hui, l'Église fait un amalgame entre les deux, alors c'est scandaleusement un mensonge. Il faut savoir à quoi les Alsaciens mosellans sont attachés, à leurs droits sociaux, mais pas du tout au fait que toute la République française, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais c'est toute la France qui paie les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs en Alsace-Moselle. C'est pas seulement les trois départements d'Alsace-Moselle. Hein? Sachez-le quand même. Donc, on peut très bien étendre la séparation de l'État et des églises à l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire dénoncer le concordat, tout en maintenant, si vraiment les Alsaciens mosellans y sont attachés, leurs droits sociaux issus de la politique bismarckienne. Il faut arrêter de mentir sur ces trucs-là, il faut arrêter de dire des choses fausses. Je suis désolé qu'il ne soit pas là, mais j'aurais bien voulu m'en expliquer avec lui tout à l'heure, quand il dit « fait dénoncer le concordat, vous allez voir ce que vous allez voir avec l'Alsace-Moselle ». Mais il faut arrêter de nous faire peur. Il y a des universitaires alsaciens-mosellans qui ont fait eux aussi un texte pour dire « on en a marre du concordat ». Mais ils n'ont pas mis en cause les droits sociaux. Donc je me résume. Aujourd'hui, et je vais conclure, j'ai plus que 5 minutes, donc je vais conclure. Aujourd'hui, la laïcité, elle est fondée sur trois principes qui fondent la fraternité du vivre ensemble. Et je dirais que entre 1905 et 2012, il n'y a pas de différence fondamentale, parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'histoire et la sociologie pour relativiser la laïcité elle-même. Vous comprenez la finalité de ce relativisme. Hein? C'est comme si je disais, la loi d'amour de Jésus-Christ, imputée à Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, a plus de 2000 ans, donc elle est obsolète. J'ai fait ça un jour avec un prêtre qui jouait les grands marxistes historicistes, alors que Marx n'est pas du tout comme ça, et je lui dis, bon, s'il suffit qu'une loi soit ancienne pour être périmée, parce qu'il me disait, oh, vous rendez compte, 1905, ça fait un siècle. J'ai dit, et alors? Quel est le rapport? Elle existe depuis un siècle, en quoi la longévité de cette loi doit-elle déterminer son caractère obsolète? J'ai dit, moi je connais une autre loi, vous savez, qui est beaucoup plus vieille. Je suis sûr que vous y êtes attaché encore, 2000 ans après. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, mais est-ce que vous acceptez de relativiser ce que vous appelez la loi d'amour de Jésus-Christ, aime ton prochain comme toi-même? Elle a 2000 ans, vous vous rendez compte, cette loi? Tiens, là, vous ne pratiquez plus le relativisme. C'est un relativisme à géométrie variable. Ce sont des marxistes inconséquents. Bon, donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il faut se méfier de l'argument relativiste, historiciste, culturaliste, qui consiste à assigner à résidence et à relativiser les principes. C'est une façon sournoise, en fait, de combattre la laïcité. Je ne vois pas en quoi les trois principes édictés par Aristide Briand et Jean Jaurès en 1905, liberté de conscience, égalité de traitement des croyants, des athées et des agnostiques, et orientation universelle de la puissance publique, argent public pour le service public, en quoi ces principes essentiels sont-ils aujourd'hui caducs? Moi, je voudrais une démonstration rationnelle, pas abstraite. Je voudrais qu'on m'explique le lien qui fait que c'est caduc. Moi, je crois qu'il faut raisonner de façon très simple. Alors, c'est vrai que nous vivons tous dans des histoires particulières et dans des lieux particuliers. Mais c'est vrai aussi, c'est toujours ce qui a suscité ma grande admiration, et je m'arrête là, Francis, ne t'inquiète pas. C'est vrai que moi, j'ai toujours été admiratif devant le fait que des hommes et des femmes, des êtres humains, à un moment donné, tout en vivant dans des contextes particuliers, sont capables d'être porteurs d'universel. C'est-à-dire sont capables d'engendrer des principes qui dépassent la particularité de leur contexte historique et social. Lorsque Spartacus retourne le glaive contre les patriciens qui l'exploitent et lève une armée d'esclaves contre l'esclavage, est-ce que sa lutte a perdu de son actualité ? Tant qu'il y aura des esclaves de par le monde, la lutte de Spartacus restera actuelle. Quand le docteur Fleming a inventé la pénicilline, est-ce que la pénicilline ne soignait que les Écossais ? Non. Parce que les facultés curatives de la pénicilline, un grand scientifique me le dira, hein, Guillaume, elles ne lui viennent pas de son origine écossaise. Elles lui viennent de sa composition physico-chimique. Eh bien, c'est pareil pour la laïcité. La puissance d'émancipation du vivre ensemble de la laïcité ne lui vient pas de son origine hexagonale ou française, comme aime à le dire la laïcité française. Hein, ceux qui adjectivent le mot laïcité, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, ce sont des adversaires de la laïcité. Ça, c'est une grille de lecture. Je ne l'ai jamais trouvée prise en défaut. Ceux qui disent laïcité positive, laïcité concrète, laïcité intégratrice, en fait, sournoisement, essaient d'attaquer la laïcité. Donc, moi, je ne dis pas que la laïcité est française. Quand je vais en Espagne faire des conférences sur l'Espagne, qui a vécu sous l'emprise du national-catholicisme, je vous jure que pour eux, le laïcisme, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'émancipation. Donc, les idéaux, il faut être capable de les formuler pour des raisons intrinsèques qui justifient intrinsèquement la laïcité. Ce n'est pas qu'elle est née en France ou en Turquie ou au Mexique avec Benito Juárez, non. C'est qu'elle fait advenir entre les êtres humains, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques, un type de régime politique qui leur assure à tous la liberté de conscience, étayée sur l'autonomie de jugement grâce à l'école laïque, l'égalité de droit, qui fait que le croyant est pleinement libre de vivre sa démarche spirituelle, mais que l'athée est tout aussi libre de vivre la sienne, et que les deux sont traités à égalité, et qu'ils se retrouvent dans une sphère publique dont la raison d'être est commune aux croyants, aux athées, aux agnostiques. Un athée, un croyant accueilli dans l'hôpital public par dans les meilleures conditions possibles, prennent la mesure de ce qu'est un bien public affranchi de tout particularisme et tourné vers l'universel. Voilà pourquoi l'argument selon lequel nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de mélange des populations plaide pour la laïcité. C'est justement parce que les populations se mêlent de plus en plus et parce qu'il y a de plus en plus de diversité culturelle qu'il faut que le cadre juridico-politique qui accueille toutes ces personnes, lui, soit totalement indépendant de tout particularisme et de toute religion particulière. C'est cette abstraction du cadre politique par rapport à tout particularisme qui lui donne sa pertinence pour intégrer des êtres qui sont d'origine très diverse. Ceci dit, je conclue là-dessus vraiment, ça sera ma dernière phrase. Ce serait une erreur de croire que la laïcité est une panacée. La laïcité n'est pas une solution universelle. Il y a par ailleurs l'autre volet de la philosophie politique qui m'est aussi cher que la laïcité, c'est la justice sociale. C'est l'idée que l'humain doit venir d'abord et non pas comme un résidu d'une économie qui lamine les ressources humaines. Et donc effectivement, il est juste de dire aussi que si la laïcité intègre grâce à son modèle juridico-politique, il faut que la justice sociale donne du sens à cette intégration grâce à, justement, l'intégration socio-économique. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent que la laïcité ne vaut rien tant qu'il n'y aura pas justice sociale. Ce serait une grave erreur. Mais je suis de ceux qui disent que la laïcité, c'est un principe d'émancipation. C'est clair. même sur le plan seulement juridico-politique, mais ce principe d'émancipation sera d'autant plus crédible qu'il sera étayé sur l'émancipation socio-économique. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Henri. Alors, vous aurez compris que l'adjectif est une défaite.